continue notre étude qu'on avait débutée la semaine dernière sur une autre discipline spirituelle pour la piété dans la vie du chrétien, la journalisation. On avait regardé la semaine dernière différents grands noms qui sont très connus dans le milieu chrétien, mais bien entendu, on va les renommer, mais on pourrait en allonger la liste énormément. Il y a beaucoup de grands chrétiens, grandes chrétiennes au cours de l'histoire de l'Église qui ont utilisé un journal personnel, pour noter leur requête de prière, leur relation avec le Seigneur et toutes sortes d'autres choses de nature spirituelle. On avait vu qu'il y avait eu Andrew Bonar, Charles Spurgeon, Robert Murray McShane, David Brainerd, George Miller, George Whitefield, Jonathan Edwards, John Eliot et beaucoup d'autres. Alors, c'est juste donner une idée que, dans le fond, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été utilisé abondamment dans le passé et avec beaucoup de profit. Alors, on avait regardé le premier point, que la journalisation, c'est vraiment notre relation avec le Seigneur. Dans le deuxième point, on avait commencé à regarder la valeur spirituelle de la journalisation. Et une des premières choses qu'on avait vues, c'était une aide pour se comprendre soi-même et s'auto-évaluer spirituellement et aussi régulièrement. On avait vu aussi une autre aide, c'était une aide pour la méditation. Ça peut grandement contribuer à nous aider à mieux méditer les Écritures. Alors, on sait qu'on vit dans une société qui n'incite pas tellement à la méditation. Aujourd'hui, tout est fait pour l'action, bouger. Méditation, c'est que tu lis quelque chose et que tu réfléchis à ce que tu lis et tu regardes les implications pratiques de ce que tu as lu. Alors, ça peut aider parce que, justement, tu notes des choses et ça t'aide à réfléchir. On était rendu là. Une autre raison, c'est une aide pour exprimer nos pensées et nos émotions au Seigneur. Souvent, un journal personnel, c'est ça l'avantage, c'est que on parle au Seigneur, on écrit ce qu'on vit, les émotions que le Seigneur nous fait vivre. Des fois, c'est des émotions d'exaltation, d'autres fois, c'est de la tristesse, d'autres fois, c'est tout ce qui se passe au cours d'une journée. On le sait, comme nos émotions, nous autres, les hommes, ça fait tout le temps ça, hein? Haut, des bas, des hauts, des bas. Mais à quelque part, ça aide de venir déverser notre cœur devant le Seigneur en racontant un petit peu ce qui se passe avec les autres autour de nous et ce qui se passe avec lui aussi. Alors, c'est une bonne occasion. Alors, ça dit dans le psaume 102 au verset 8, « Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre retraite. » Répandre notre cœur, quand on dit qu'on répand notre cœur devant quelqu'un, c'est que devant le Seigneur, on peut tout dire. Aux hommes, on ne peut pas tout dire. Des fois, il y a des choses qu'on peut dire juste à des amis très intimes. Mais au Seigneur, on peut ouvrir notre cœur tout grand, puis il nous écoute. Puis il nous écoute à la perfection. Tandis que les hommes, parfois, ils en laissent passer, ils n'oublient pas, ils comprennent mal. Le Seigneur comprend toujours tout à la perfection. Alors, peu importe notre proximité dans l'amitié ou notre intimité dans le mariage, on ne peut pas toujours exprimer aux autres ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Même dans le mariage, des fois, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on est mariés, puis on ne peut pas tout dire à notre femme. Puis la femme ne peut pas tout dire à son mari. Il y a des affaires que c'est quasiment juste le Seigneur dans ta relation avec le Seigneur. Mais parfois, on ressent très fortement le besoin de nous exprimer clairement et sans gêne. Alors, la tenue d'un journal permet cette expression-là. Alors, les émotions humaines sont souvent à l'une ou à l'autre extrémité. Soit l'euphorie, ou soit l'abattement le plus total. Connaissez-vous ça? Moi, je connais ça. À un moment donné, il y a des fois que ça voudrait qu'on vole des nuages. Puis d'un coup, une couple de jours après, t'atterris, puis frotte le nez sur l'asphalte, c'est comme on dit. C'est ça la vie. Mais quelque part, faut pas avoir peur de partager avec le Seigneur ce qu'on vit, ce qu'il nous fait vivre. Alors, prenons comme exemple ici une entrée dans le journal de David Brainerd. David Brainerd, c'était le gendre de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, il avait une fille, puis David Brainerd, il l'a mariée. Puis Jonathan Edwards, c'était le genre de gars, il était tellement spirituel qu'il n'a pas donné sa fille à n'importe qui. Ça, c'est un gars qui allait évangéliser dans le bois à dos de cheval, les Indiens à l'époque des années 1700. Là on est pas aujourd'hui là avec les Indiens qui étaient dans le bois, puis c'était risqué là, d'aller annoncer l'évangile aux Indiens. Lui, ça a été sa vie. Le but de sa vie, c'était d'évangéliser les Indiens. Et lui, il avait cette habitude-là d'écrire ce qu'il vivait dans son journal. Alors, c'était un missionnaire américain auprès des Amérindiens et il exerçait un ministère particulièrement fructueux parmi les Indiens du Delaware dans le New Jersey. Au cours de sa courte vie, il a connu de nombreuses difficultés. Alors ici, on va prendre deux... Tout à l'heure, on parlait d'euphorie, puis on parlait de découragement. On va voir comment il exprimait ça, lui, dans son journal. Un exemple d'un moment de découragement. Dans son journal du 16 décembre 1744, c'était un dimanche, voici ce qu'il dit. « J'ai été tellement bouleversé que je ne savais pas comment vivre. Je désirais ardemment la mort. Mon âme était plongée dans les eaux profondes et les inondations étaient prêtes à me noyer. J'étais tellement opprimé que mon âme était dans une sorte d'horreur. Je ne pouvais pas garder mes pensées fixées dans la prière pendant une minute sans distraction. Cela me faisait extrêmement honte de ne pas vivre pour Dieu. J'aurais voulu me retrouver dans l'éternité. Alors que j'allais prêcher aux Indiens, mon âme était dans l'angoisse. Le découragement m'a tellement envahi que j'ai désespéré de faire quelque chose de bien et j'ai été poussé à bout. Je ne savais pas quoi dire ni quelle voie prendre. » Alors, c'est un homme qui a été consacré toute sa vie, mais on voit qu'à un moment donné, il y a des journées, il était, comme on dit en québécois, il était « down ». D'autres journées, un moment de joie intense. On prend une autre journée, le jour du Seigneur encore, le dimanche, le 17 février 1745. Il dit, « Je pense que je n'ai jamais eu la possibilité d'offrir la grâce gratuite et souveraine de Dieu aux pécheurs qui périssent avec plus de liberté et de clarté dans ma vie. Par la suite, j'ai eu la possibilité d'inviter avec ferveur les enfants de Dieu à venir boire de cette source d'eau de la vie dont ils ont jusqu'ici tiré une satisfaction ineffable. Ce fut un moment très réconfortant pour moi. Il y avait beaucoup de larmes dans l'assemblée et je ne doute pas que l'Esprit de Dieu était là, convainquant les pauvres pécheurs de leurs besoins de Christ. Le soir, je me sentais calme et bien dans ma peau, bien que fatigué. J'avais un certain sens de l'excellence et de la gloire de Dieu. Et mon âme s'est réjouie qu'il soit Dieu pour tous, béni à jamais. Mais j'étais trop encombré de compagnie et de conversation et aspirais à être plus seul avec Dieu. Or, je pourrais toujours bénir Dieu pour la miséricorde de ce jour-là qui m'a répondu dans la joie de mon cœur. Alors, il connaissait des moments aussi très intenses de joie et d'euphorie, de contentement, il sentait la présence de Dieu. D'autres moments où il était dans le découragement le plus total. Ça ressemble-tu à nous autres un petit peu? Je trouve que ça y ressemble pas mal. Alors, une autre pensée du pasteur et auteur Maurice Robert. Il dit, « Un journal spirituel aura tendance à approfondir et à sanctifier la vie émotionnelle d'un enfant de Dieu. Il est très précieux pour nous de devenir plus profondément émotifs face aux grandes questions de notre foi. Notre époque n'est pas assez profonde en sentiments. Les hommes bibliques sont décrits comme répandant des larmes abondantes, des soupirs, des gémissements, parfois aussi de réjouissance d'extase. Ils ont été ravis par l'idée même de Dieu. Ils avaient une passion pour Jésus-Christ, sa personne, ses fonctions, ses noms, ses titres, ses paroles et ses œuvres. C'est notre honte d'être si froid, insensible et si peu émotif en dépit de tout ce que Dieu nous a fait et pour nous en Christ. La tenue d'un journal intime pourrait également contribuer à nous redresser à cet égard. Quatrièmement, c'est une aide aussi pour nous souvenir des œuvres de Dieu. Alors, on a tendance à oublier les nombreuses réponses de Dieu à nos prières, à ses innombrables provisions pour notre bien-être physique et spirituel, et ce qu'il a accompli des choses merveilleuses dans nos vies. Un journal intime peut contribuer à collecter les mémoires de ces choses et prévenir notre tendance à l'oubli et à l'ingratitude. Il y en a qui le font. Ils prennent un livre et y inscrivent leur requête de prière dedans et y inscrivent le suivi, comment Dieu a répondu, quand il a répondu, de quelle manière il a répondu. Alors, ici, on regarde le psaume 77, versets 11 et 12. Et j'ai dit, voilà ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut a changé. Je me rappellerai les exploits de l'Éternel, me souvenant de tes merveilles d'autrefois, je méditerai sur toutes tes œuvres et je considérerai tes hauts faits. Si on ferait juste prendre que ce qui est écrit dans ce verset-là, au mot, qu'on ferait ce qui est dit là, regardez ce que c'est. Je me rappellerai les exploits de l'Éternel. Y a-t-il une meilleure façon, quand tu lis ta Bible à tous les jours, t'en rends compte des exploits presque à toutes les pages. Et des fois, on a besoin de se rappeler ce que Dieu a fait pour son peuple dans l'Ancien Testament, pour son peuple dans le Nouveau Testament, pour son peuple et pour les individus dans l'Église moderne aujourd'hui et dans toute l'histoire de l'Église. Puis quand il dit « Je méditerai sur toutes tes œuvres », imaginez, essayez de donner du contenu aux mots, là. Je méditerai sur toutes tes œuvres. Et ce serait terrible si on se mettrait à développer ça. Après ça, je considérerai tes hauts faits. Des fois, on lit la Bible. Je disais récemment l'histoire de 185 000 hommes que le Seigneur, il dit pas, voici, c'est lui qui dit, tiens-toi là et observe, je vais m'occuper de ça. Et il prend une armée qui attaquait Israël, 185 000 hommes d'un coup. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un haut fait? Mm-hmm. Mais des fois, on a besoin de les noter et de méditer sur ce que le Seigneur, la puissance qu'il a pour être capable de faire de telles choses. Deutéronome, chapitre 17, verset 18 à 20. « Et dès qu'il sera assis sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, un double de cette loi qu'il recevra des sacrificateurs de la race de Lévi. Et ce livre sera avec lui. » Et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à prendre garde à toutes les paroles de cette loi et à ses statuts pour les pratiquer, de peur que son cœur ne s'élève au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ce commandement à droite ou à gauche, et afin qu'il prolonge ses jours dans son règne, lui et ses fils au milieu d'Israël. » Il est en train de parler d'un roi, mais dans le fond, ça peut s'appliquer. La Bible dit de nous aussi qu'on est des rois. Alors, nous aussi, on devrait avoir l'attitude qu'on voit dans Deutéronome 17. Voici ce que le célèbre pasteur et prédicateur anglais Charles Spurgeon dit au sujet de ça. Il dit, « J'ai parfois dit, quand je suis devenu la proie de mes doutes, eh bien maintenant, je n'ose plus douter de l'existence d'un Dieu, car je peux regarder en arrière, dans mon journal, et dire, ce jour-là, dans les profondeurs de ma tristesse et de mon épreuve, j'ai plié mon genou devant Dieu. Et souvent, Dieu m'avait donné une réponse avant même que je me relève de mon agenouillement de prière. » Alors, il est en train de dire qu'il y a eu des doutes, il y avait des difficultés. Mais ce qui faisait du bien, c'est qu'il reculait un petit peu dans les pages de son journal pour se rappeler ce que Dieu avait fait pour lui. Et ça te remonte, ça t'encourage. Donc, on était rendu à la cinquième chose que ça les bienfaits du journal, une aide pour créer et préserver un héritage spirituel. Une supposition que vous auriez tenu votre journal spirituel depuis que vous êtes chrétien. Dans mon cas, ça a 40 ans. Puis, j'aurais tout gardé mes journaux. Puis que quand je déciderais, mes deux enfants pourraient lire ça. Pensez-vous que ça pourrait être bon pour eux autres?
Oui.
Ben oui, ils verraient toutes les choses que j'ai eues avec le Seigneur et ils pourraient voir les moments d'exaltation que j'ai eus, les moments de découragement, ma vie de chrétien, qu'est-ce que ça a été. Alors quand on parle d'une aide pour créer et préserver un héritage spirituel, quelqu'un qui le fait et qui met des choses enrichissantes et édifiantes dans son journal, bien entendu, ça peut aider à tes propres enfants. Alors la journalisation, c'est un moyen efficace pour enseigner les choses de Dieu à nos enfants et pour transmettre notre foi. Le fameux Deutéronome 6, versets 4 à 7, qu'on appelle le schéma juif. Les Juifs, ils apprennent cette prière-là dès leur jeunesse, ils répètent ça tous les jours. Alors c'est « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. « Et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et qui a été d'abord dans ton aïeul Loïs, puis dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. » Vois-tu, lui, c'était vraiment de la foi de mère. Alors, la grand-mère à Timothée était chrétienne, elle a transmis ça à sa fille Eunice, puis Eunice, elle l'a transmis à Timothée, puis sans doute que Timothée, s'il a eu des enfants, il l'a transmis à ses propres enfants. Alors, Donald Whitney parle que son père était travaillait devant un poste de radio et il jouait de la guitare. Et il faisait des commentaires sur différentes choses, sur ce qu'il vivait. Alors, quand il a eu hérité de la guitare, il a trouvé une pile de lettres dans le boîtier de transport de la guitare dans lesquelles son père exprimait sa joie et sa reconnaissance au Seigneur d'avoir permis la naissance de Donald, lui. Quand toi, tu trouves ça dans un case, et puis tu trouves une lettre dans laquelle ton père exprime sa joie au Seigneur de ta naissance. Lui, il dit que c'est un des plus beaux souvenirs de toute sa vie. Je comprends, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Alors, il dit qu'il avait trouvé la lettre dans laquelle il exprimait sa reconnaissance au Seigneur, malgré que son épouse avait eu un accouchement extrêmement difficile. Maintenant, tu trouves cette lettre-là, puis où ton père décrit sa reconnaissance au Seigneur pour cette affaire-là, ça doit être touchant. Alors, son père était un animateur de radio, et il avait partagé ces choses-là avec le public, alors que lui-même était bébé. Son père parlait de lui à la radio. Puis là, lui, il découvre ça. Il était profondément touché, je le comprends très bien. Alors, imaginons l'impact qu'aurait eu un journal dans lequel le père de Donald aurait mis par écrit sa vie de foi avec le Seigneur Jésus-Christ, comme nous, la nôtre. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je vais vous dire, bien franchement, la leçon m'a parlé assez pour que je le parte. Je vais en partir un journal. Et là, il est tard un peu, là, mais ça fait rien. Il me reste encore peut-être quelques années, peut-être, je ne sais pas. Mais souvent, en vieillissant, on apprend plus de choses sur le Seigneur. Peut-être que mes commentaires seront peut-être meilleurs, je ne sais pas. Psaume 102, versets 17 à 19. « Quand l'Éternel aura rebâti Sion et qu'il aura paru dans sa gloire, qu'il aura écouté la requête des désolés et n'aura pas dédaigné leurs supplications, cela sera écrit pour la génération à venir et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. » Cela sera écrit pour la génération à venir. Alors, quand on fait ça et qu'on loue le Seigneur et qu'on parle du Seigneur dans notre journal, que les enfants nous lisent ça plus tard, sûrement que ça peut les toucher. Regarde ce que papa disait de Dieu. Regarde, intéressant. Une autre raison, c'est une aide pour clarifier et articuler. J'ai traduit perception, mais le mot insight en anglais est difficile à traduire. Un insight, in, ça veut dire dedans. Sight, ça veut dire vision. Une vision interne. Tu sais, des fois, on parle d'un insight. Quand on lit la Bible, là, des fois, le Saint-Esprit permet qu'on comprenne le sens du verset avec une... Il me semble que ça fait 50 fois que je dis ça. Comment ça se fait que ce fois-là? Je comprends, on dirait que le Saint-Esprit me donne de comprendre le sens du verset. Et ça, un insight. Alors, dans les Saintes Écritures et ses impressions spirituelles. Alors, George Müller, c'est celui qui s'est occupé de, je ne sais pas combien, de milliers d'orphelins en Angleterre. Voici ce qu'il écrivait, lui, le 22 juillet 1938. Il dit « Ce soir, je me promenais dans notre petit jardin en méditant sur Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout en méditant sur son amour immuable, son pouvoir et sa sagesse, et en tournant tout ce que je passais dans la prière pour moi-même, et tout en appliquant également ces circonstances immuables tout à la fois. Le besoin actuel des maisons des orphelins a été évoqué. J'ai tout de suite été amené à me dire, Jésus, dans son amour et son pouvoir, m'a jusqu'ici fourni ce que j'avais besoin pour les orphelins. Et dans le même amour et pouvoir immuable, il me fournira ce dont j'aurai besoin pour l'avenir. Un flot de joie est entré dans mon âme tout en réalisant ainsi le caractère immuable de notre Seigneur Jésus. Environ une minute après, une lettre m'a été envoyée avec un chèque de 20 livres. Dans celui-ci était écrit « Appliquerez-vous le montant du chèque ci-joint aux objets de votre société Scriptural Knowledge Society ou de votre établissement pour les orphelins ou à l'œuvre et à la cause de votre maître pour quelque manière que ce soit. Ce n'est pas une grosse somme, mais c'est une provision suffisante pour l'exigence d'aujourd'hui. Et c'est pour les exigences d'aujourd'hui que le Seigneur pourvoit ordinairement. Demain apportera ses exigences et le Seigneur y pourvoira. » Lui, là, toute sa vie, là, il a tenu un journal et il est disponible sur Internet. Pour ceux qui lisent l'anglais, là, ça ferait, si tu imprimerais ça, ça serait une méchante brique. À tous les jours, il écrivait ce qu'il vivait. Et apparemment que c'est une beauté à lire parce qu'il raconte comment Dieu a permis qu'en demandant jamais une scène à personne, il a pu bâtir des bâtisses pour s'occuper de 2000 orphelins, les nourrir, les éduquer, les habiller, puis il n'a jamais demandé une scène à personne. Il a jamais envoyé une lettre, je manque d'argent, et l'argent rentrait, les besoins se comblaient à mesure. Ça doit être de toute beauté de lire ça, parce que là, il raconte son âme, il déverse son âme devant le Seigneur, il raconte les besoins, et il raconte comment le Seigneur a répondu aux besoins. Imaginez-vous, vous tombez en charge de 2000 orphelins le jour au lendemain, là. Puis vous n'avez pas l'argent. Ça, c'est un bel exemple de pratiquer ta foi. Un autre bénéfice, c'est une aide dans la surveillance des objectifs et de tes priorités. Parce que souvent, dans un journal, tu vas mettre tes objectifs, tu vas mettre des priorités. Supposons que tu auras un objectif d'apprendre des versets par cœur. Mais tu peux te donner un objectif, puis c'est une façon de suivre. Si tu tiens parole, ben là, si tu fais juste dire des paroles en l'air. Alors, Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 16. « Non pas que j'ai atteint le but ou que je sois parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes parfaits ayons ce sentiment, et si vous pensez autrement à quelque chose, Dieu vous le révélera aussi. Cependant, au point où nous sommes parvenus, marchons suivant la même règle et ayons les mêmes sentiments. » Alors, je vais passer la liste. Je vais plutôt le garder pour la semaine prochaine. Ce qui arrive, c'est qu'on va regarder la semaine prochaine comment le grand évangéliste George Whitefield, qui était un des plus grands évangélistes de tous les temps. Lui, il tenait un journal, mais à chaque fois qu'il rentrait, qu'il faisait une entrée dans son journal, il répondait à 15 questions. Autrement dit, il mettait sa liste devant lui, puis il examinait sa journée, puis il répondait à ces questions-là, comme par exemple, « Ai-je été fervent en prière aujourd'hui? » Oh, c'est sondant. Un autre, « Me suis-je réservé des temps réguliers de prière dans cette journée? » Ai-je cherché à garder le contact conscient avec Dieu? » Et il y en a 15 comme ça. Il les mettait devant lui, et il réfléchissait à sa journée, et il écrivait, ben, quand on dit « une aide pour la surveillance de tes objectifs et de tes priorités », des fois, la vie t'a montré certaines difficultés que tu avais dans la journée. Et c'est une bonne occasion justement pour placer ça devant le Seigneur, puis lui dire, regarde, je suis impatient, je vais ici, je vais ça. Pourras-tu, Seigneur, me donner ce que j'ai besoin pour continuer à avancer? Alors, on va terminer là pour aujourd'hui et on terminera la semaine prochaine. Pardon? Ah oui? Ah, tu es là. Voyons.